et vous avez le pied au niveau de la chaussure. On reste dans le cadre d'une finale, je n'en veux plus. C'est clair ?
Voilà. Non, je n'ai pas touché.
C'est déjà trop.
Salut tout le monde, c'est encore moi, Abdallah, fidèle au poste pour animer ce superbe podcast qu'est Banquette. D'ailleurs, on ne s'arrête plus, après David Bellion et Lucie Bacon, on accueille pour ce 25e épisode un homme dont le nom finit par 10, comme le nombre le plus beau du football. Et la semaine prochaine, on recevra donc logiquement Michael Pagis, mais s'il est aussi fun derrière le micro que pour ses célébrations de but, ça promet. Donc, l'invité de ce nouvel épisode s'appelle Raphaël Cosmidis, journaliste pour l'équipe.fr, les cahiers du foot et cofondateur du podcast Vue du banc. Mais c'est surtout un grand passionné de foot. Tellement qu'avec des potes, ils écrivent même des livres dessus. Après « Comment regarder un match de foot », lui et ses compères se sont attelés aux coachs les plus révolutionnaires de l'histoire dans « Les entraîneurs révolutionnaires du football » paru aux éditions Solar. Avec ses confrères Christophe Cuculli et Julien Maumont, Raphaël Cosmidis passe en revue les grandes innovations de l'histoire à coups d'anecdotes et d'analyses tactiques. Les vacances commencent bientôt, pour beaucoup d'entre vous. C'est le bon moment pour faire une mise à niveau footballistique et revenir mi-janvier aussi frais que Benjamin Mendy sur le banc de City. Dans cet épisode, on a parlé de pourquoi il est important pour tout fan de foot de connaître un minimum les philosophies de Cruyff et Herrera, de comment le socialisme en Hongrie a changé la face du football. On a aussi parlé des coachs contemporains, Mourinho, Bielsa, mais surtout Pep Guardiola, pas Genesio, et comment il a inspiré des dizaines de coachs à travers le monde. Enfin, parce qu'il n'est jamais trop tôt pour débattre de la Coupe du Monde, Raphaël, grand prince, nous a confié quelles équipes il fallait suivre en Russie cet été. Scoop, la France n'en fait pas partie. Allez, Banquette épisode 25, dédicace à Nico Dieuz, on y va. Comment ça va Raphaël ?
Très bien, et toi ?
Content de t'avoir avec nous aujourd'hui pour parler de ce super bouquin qui est « Les entraîneurs révolutionnaires du football ». Je l'ai dévoré, vraiment.
C'est cool.
J'ai appris beaucoup de choses que je ne connaissais pas, pas mal d'anecdotes aussi sur le football et sur la création de certaines tactiques. Et en gros, on va pas parler de tous les coachs, parce qu'on va quand même laisser aux lecteurs découvrir ce qu'il y a dans ce bouquin. Mais on va juste aborder trois des entraîneurs qui sont cités dans ce livre. Gustavo Cebes, Elenio Herrera et enfin Pep Guardiola, qui est toujours en activité. Déjà, on va commencer avec Gustavo Cebes. Est-ce que tu peux déjà nous le présenter en trois mots ?
Je crois que le plus important pour les gens qui ne savent pas du tout qui c'est hongrois. C'est une qualité importante. Hongrois, révolutionnaire, parce que c'est ce qui concerne tous les entraîneurs pour l'époque. Et surtout, si je devais choisir une troisième chose, ce serait le bourreau des Anglais. Parce qu'il est surtout connu pour ça, pour ce match contre l'Angleterre en 53, où la Hongrie va s'imposer à Wembley pour la première fois de l'histoire de l'Angleterre, parce que l'Angleterre n'avait jamais perdu à Wembley auparavant. Une Angleterre qui était persuadée d'être la meilleure équipe du monde, d'être le pays qui a inventé le football et de tout savoir du football, et qui se prend une leçon tactique et technique de la part des Hongrois, entraînés donc par Gustav Sebest à l'époque, dans les années 50. Quelqu'un qui a marqué l'histoire du football, qui a entraîné la plus belle Hongrie de l'histoire, et qui a surtout changé le football pour toute une génération d'entraîneurs qui a vu ce match.
Et c'est vrai qu'on parle souvent de l'équipe de Hongrie dans les années 50 avec Puskás, Coxis ou Szibor, mais c'est vrai qu'on connaît très peu l'histoire de ce sélectionneur. Comment ça se fait qu'on n'ait pas trop retenu ce nom et plus les joueurs ?
Et je pense que ce qu'on essaye de faire aussi avec ce livre, c'est de mettre en lumière les entraîneurs. Et à l'époque, et d'ailleurs c'est lié aussi, on va en parler avec Elenio Herrera, c'est que l'entraîneur n'était pas forcément la star, ni une star même. On parlait surtout des joueurs, le football n'était pas diffusé comme aujourd'hui, donc dès que ça dépassait un peu les frontières, on ne connaissait pas ces personnages, en dehors des grands joueurs de l'époque. Et puis il y avait aussi le côté médiatique de la plupart de ces vedettes, tu as cité les noms, c'est quand même des joueurs qui ont concentrer l'attention médiatique, et Cebes, son travail était un peu plus en retrait parce qu'on considérait pas l'entraîneur en étant ayant un rôle aussi important à l'époque.
Pourtant, il met quelque chose en place de révolutionnaire, il met un nouveau système en place qui contre le WM. Donc le WM, c'est un système qui est vachement en vogue à l'époque, et toutes les équipes jouent comme ça, et ça crée des situations de 1 contre 1 comme vous l'écrivez dans le livre, et lui il arrive avec un nouveau truc qui casse tout.
C'est ça, et surtout ce qui l'a changé, c'est cet attaquant qui était très fixe avant, surtout chez les Anglais, où on avait 2-3 attaquants qui étaient dans la surface, qui attendaient les centres. Et lui, ce qu'il va faire avec Guidi Guti, c'est qu'il va prendre un attaquant qui va venir décrocher, un peu comme l'a fait Messi avec Guardiola, des décennies plus tard. Et tout ce mouvement, cette liberté de mouvement, parce que c'est une équipe où le mouvement était libre, ça va perturber les Anglais qui sont complètement perdus dans les marquages. Donc c'est vrai qu'il y a le système, mais il y a aussi cette animation offensive qui est complètement nouvelle, complètement innovante, et qui complètement trompe les Anglais, parce qu'ils ne s'attendent pas à voir un football en fait où il n'y a plus tellement de positions figées et chacun peut se déplacer librement dans l'espace.
Donc c'est le mouvement en fait qui perturbe les Anglais, ils n'ont pas l'habitude de voir des joueurs permutés, bouger dans tous les sens, c'est
ça. Ils ne sont pas habitués à suivre leur adversaire aussi loin, à voir des joueurs changer autant de zones, à décrocher comme ça au lieu d'attendre le ballon dans la surface. Et surtout c'est des profils hyper techniques, c'est tous des joueurs qui sont capables de porter le ballon, de faire la différence, d'éliminer par la passe. Et tout ça, l'Angleterre ne l'avait pas à l'époque.
Il y a un des trucs qui est mis en avant dans le livre pour expliquer un peu ce système révolutionnaire, c'est que en fait Sebes bénéficie du régime politique en place en Hongrie à l'époque, c'est-à-dire un régime socialiste qui lui permet d'avoir les joueurs à disposition quasiment tout le temps.
Exactement.
Ça lui permet d'avoir une équipe nationale qui est quasiment un club en fait.
Tu vois la différence d'aujourd'hui où t'as l'impression que les équipes nationales sont reléguées au second plan, où souvent d'ailleurs les entraîneurs d'équipe nationale ne sont pas les plus doués, ni les plus mis en avant, ni les plus disons, médiatiques. À l'époque, l'équipe nationale est un enjeu majeur pour la plupart des pays. Le football de club est un peu en retrait. Et dans les pays de l'Est, à l'époque, dans le bloc de l'Est, il faut absolument montrer la capacité de ce football à faire la différence, la capacité du socialisme, du communisme à exister, à faire la différence. Et Sebes, en fait, il a la priorité sur tous les joueurs. Il les prend quand il veut. Il y a des camps d'entraînement d'un mois et demi, ce qui n'existe plus du tout aujourd'hui en dehors des grandes compétitions. Le football hongrois se base en grande partie sur ces joueurs-là, parce que dans les clubs hongrois, il y a aussi ces noyaux de joueurs. Et en fait, tout ce contexte social lui permet de travailler vraiment en profondeur et de donner un style de jeu à une équipe qui n'en avait pas jusque-là, contrairement aux autres nations qui vont s'appuyer sur les joueurs qu'ils peuvent récupérer en club.
Dans cette équipe de légende de la Hongrie des années 50, il y a un joueur que tu as cité il y a quelques instants, It Guti, je ne sais pas si je le prononce très bien.
Oh, personne ne sait si on le prononce très bien, il faudra quelqu'un de hongrois qui vienne.
Il a un rôle très important, comme tu l'as dit, donc il était un peu faux neuf, il décrochait pas mal. C'est vrai que c'est un joueur qu'on connaît pas, que je ne connaissais pas quand j'ai lu le livre. Parce qu'il est un peu oublié par rapport à Puskás et compagnie, alors qu'il a un rôle important. C'est comment ça se fait ?
C'est l'ombre de Puskás à l'époque qui est le fait peut-être de jouer au Real qui fait qu'on connaissait surtout ce joueur et que le reste de l'équipe n'est pas resté autant en mémoire. Et pourtant, quand tu retraces l'histoire, quand tu lis les dépêches des journaux de l'époque, quand tu lis les entraîneurs qui ont vu ce match, tu les écoutes, ils te disent que c'est ce joueur-là, en dehors de la qualité de Puskás, qui a tout changé parce que ses déplacements c'était inédit pour l'Angleterre. Et ce qui est bizarre, c'est que finalement, tu vois, ce football qui existait déjà dans les années 50, quand Messi fait la même chose en 2009 contre le Real, Guardiola explique qu'il a eu l'idée dans la nuit de dire à Messi de faire ça, le Real vit le même problème, 60 ans plus tard quasiment. Ouais. Donc tu te dis finalement, c'est là que tu vois que le football est cyclique, c'est que tout ce qui a été appris à un moment, tout ce qui a été acquis, bah, il peut être oublié parce que les entraîneurs n'ont pas forcément le sens de l'histoire et la mémoire de ce qui s'est passé il y a très très longtemps.
Et toujours sur ce joueur, pour montrer l'importance qu'il a dans le livre, vous le comparez à un certain Zinedine Zidane en 2006. C'est fort quand même.
Ouais, non, mais c'est un peu ça. C'est ce joueur qui, parce que ce joueur qui change la donne, parce que la France en 2006, c'est surtout Zidane qui revient à un niveau physique qui lui permet de faire la différence. Il y a une différence de positionnement, mais il y a aussi cette liberté chez les deux joueurs en fait d'aller où ils veulent pour faire la différence. Et quand on se rappelle de l'équipe de Zidane en équipe de France, au départ, il avait une position, mais on le retrouvait toujours proche du ballon pour créer un surnombre. Et c'est la même chose avec Guti.
Et toujours sur cette équipe de Hongrie des années 50, donc elle bat l'Angleterre chez elle en 53. Elle gagne les JO, il me semble, c'est un an avant, c'est ça, en 52.
Ouais,
mais c'est pas une compétition dont on
se
rappelle forcément.
Et même aujourd'hui, d'ailleurs, les JO de foot n'ont jamais eu l'importance.
Et on arrive en 54, année de Coupe du Monde, en Suisse, où normalement, la Hongrie doit être sacrée avec son beau jeu. Ouais. Et là, arrive le drame. Tu peux nous raconter un peu cette Coupe du Monde?
Oui, parce que c'est une Hongrie qui est sur sa lancée en fait depuis 53 et qui pratique ce jeu flamboyant. Et il y a ce match dramatique en finale contre l'Allemagne, parce que l'Allemagne est toujours là quand tu regardes l'histoire du foot.
Et qui bat en poule en plus, ils les battent en poule.
C'est ça, mais l'Allemagne a eu cette histoire-là, ce sens-là de l'histoire pendant longtemps, d'être l'équipe qui va faire perdre le beau jeu à chaque fois. 82, on se souvient, les gens qui ont connu ce match-là ont été traumatisés. Voilà, l'équipe de France du beau jeu, du carré magique, est éliminée par l'Allemagne. Et à chaque fois, c'est pareil. Et en 54, c'est ça, cette équipe d'Allemagne qui n'est pas restée dans la légende parce que c'était une équipe qui était rugueuse, qui était physique et qui d'ailleurs a été soupçonnée assez largement de dopage à l'époque et encore aujourd'hui, mais qui va battre la Hongrie et finalement faire oublier un peu cette équipe, un peu comme l'Allemagne de 74 contre les Pays-Bas de Cruyff, où c'est pas le beau jeu qui gagne, mais l'équipe la plus efficace.
Et justement, comme tu le dis, c'est le fait d'avoir perdu en finale de Coupe du Monde face à l'Allemagne. Est-ce que ça n'a pas porté préjudice justement à, entre guillemets, à l'héritage de Sebes dans les consciences
Je pense qu'il a fallu du temps pour qu'on reconnaisse la grandeur, mais je pense que les idées déjà à l'époque, quand il y avait beaucoup de journalistes français qui étaient présents au match à Wembley en 53, beaucoup de coachs aussi, et eux n'ont pas eu besoin d'une victoire en 54 pour être influencés par le style de jeu. Parce que le 6-3 en 53, c'est comme un match de boxe en fait à l'époque. C'est-à-dire que l'Angleterre est censée être la meilleure nation du monde, et d'un coup ils se retrouvent complètement à terre face à un adversaire qui a l'air de sortir de nulle part et qui en fait est largement supérieur. Et c'est vrai que ça, peut-être dans les livres d'histoire, du coup la Hongrie n'a pas sa place, et d'ailleurs on n'a jamais retrouvé une Hongrie à ce niveau-là depuis, mais le fait de perdre parfois peut te rendre plus fort, enfin pas plus fort, mais marquer encore plus, comme là, les Pays-Bas 74, c'est un peu la même idée, c'est que ils sont presque plus légendaires parce qu'ils ont perdu.
Et on a parlé un peu des coachs français qui, eux, savaient. T'en as parlé là à l'instant. On sait qu'à la même époque, il y a une grande équipe aussi en France qui est le Stade de Reims. Ouais. Est-ce qu'eux, ils ont aussi été influencés par Gustave Sébès?
C'est intéressant parce que le coach de l'époque, Albert Batteux, était un entraîneur qui aussi avait des idées très offensives et très innovantes sur le jeu, avec du mouvement, du jeu en une touche, beaucoup de passes. Et c'est plus un contemporain, je dirais, qu'un disciple de Sébès. C'est qu'à la même époque, ils ont eu à peu près les mêmes idées. Sébès les a poussés un peu plus loin et surtout a eu l'exposition médiatique qui fait qu'on en a parlé. Mais c'est vrai que Batteux aurait pu avoir sa place dans le livre. D'ailleurs, on le mentionne à un moment parce que dans tout son parcours, il a toujours été considéré comme un inventeur.
Maintenant, on va changer d'époque et de style carrément. Exit le beau jeu. On passe maintenant au Catenaccio et Elenio Herrera. Est-ce que tu peux nous le présenter vite fait, qui est cet entraîneur?
Ce qui est intéressant, c'est que des gens nous ont demandé alors pourquoi il n'y a pas d'entraîneur français. Et en fait, Herrera est en grande partie franco-uruguayen, ouais. C'est ça, et franco-argentin, pardon. Et ce coach-là, qui est né en Amérique du Sud mais qui a fait sa formation en France, a eu un impact considérable sur la formation française ensuite, parce qu'il a participé à la création de la DTN en France avec Georges Boulogne. Et son style de jeu, ses idées ont eu de l'impact sur la culture du jeu française, et on s'en rend pas forcément compte. Elenio Herrera, si on doit résumer, c'est le coach qui gagne tout avec l'Inter dans les années 60, notamment Ligue des Champions, ou à l'époque Coupe des Clubs Champions, et qui a ce style à l'opposé de Gustavo Sébès, parce que c'est un coach qui va considérer que avoir le ballon est plus dangereux et qu'il faut, dans les plus grands matchs en tout cas, être capable de se replier très bas, de contre-attaquer, de défendre proche de son but. Et dès qu'on récupère le ballon, il le dit, il faut marquer en moins de 3 passes.
Et donc, il développe un système qui s'appelle le Catenaccio.
C'est ça.
Tu peux nous expliquer en quoi ça consiste sur on est sur un tableau noir, tu nous expliques comment c'est...
On est dans les années 60, jusque-là, la défense à 5 était inédite et lui, c'est le premier qui va le faire. Donc, c'est une défense à 5. Alors, avec deux latéraux qui sont plutôt offensifs, notamment Facchetti, qui était un des latéraux les plus innovants à l'époque. Mais c'est cette défense à 5, ce milieu renforcé et deux attaquants devant qui sont là pour marquer des buts. Juste là pour marquer des buts, pour participer au jeu, non, parce que l'Inter ne développe pas beaucoup de jeu à l'époque. Et c'est ça le système, c'est de se replier très bas, d'attendre, avec toujours un libéro en couverture. Dans cette défense à 5, tu vas avoir un des trois centraux qui va être toujours un libéro en couverture. C'est tout l'inverse de ce qu'essayaient de développer les équipes les plus modernes de l'époque, où on commençait à concevoir la zone, le fait de ne pas suivre son adversaire jusqu'au bout du terrain. Et là, le Catenaccio, c'est différent, c'est tu vas suivre ton adversaire, tu vas le tamponner, et si le ballon passe dans ton dos, c'est pas grave, on a un libéro.
Et avec ce style de jeu, Herrera a un peu développé, enfin en tout cas aujourd'hui, on a un peu l'impression qu'il a développé une image d'antéchrist contre le beau jeu, c'est moche, c'est laid, mais pourtant il gagne.
Et c'est l'image que Mourinho a hérité aujourd'hui, c'est vraiment son fils spirituel, parce qu'il retrouve le même rôle aujourd'hui, il y a cette antagonie Guardiola-Mourinho. Et à l'époque, Herrera est le Mourinho, mais il n'a pas vraiment d'ennemis à l'époque, pas encore. Parce que ça va venir
tous les deux gagner à l'Inter aussi.
Voilà, ouais. C'est ça, et ça va venir un peu plus tard avec l'Ajax de Michels. Mais dans les années 60, Herrera est l'entraîneur star. Et d'ailleurs, il le dit, les entraîneurs peuvent me remercier, c'est grâce à moi qu'il gagne autant d'argent. Parce que lui, en fait, a fait de son rôle un rôle starisé, important, et montré toute l'influence qu'il avait sur les joueurs.
Et ce qui est un peu bizarre avec Herrera, en lisant le livre, c'est j'ai découvert qu'en fait il a entraîné le Barça avant, et d'autres équipes en Espagne aussi, et qu'il joue en 4-2-4, donc un football très offensif. Et en arrivant en Italie, il met en place ce football, sauf qu'il est sur une mauvaise série, et là il décide de changer radicalement pour le Catenaccio. Et je me suis posé la question, pourquoi il continue pas après s'être rassuré à rejoindre 4-2-4 en fait?
Mais je pense que c'est aussi la grande question de comment les idées des entraîneurs naissent, et lui c'est pas forcément quelqu'un qui est né avec l'idée d'un football aussi restrictif. Mais parfois, à un moment de ta carrière, et lui, ça a été le cas, tu tombes sur une recette qui te paraît efficace et qui va gagner sur le long terme. Et c'est ce qui s'est passé avec lui, c'est qu'il a gagné sur le long terme avec ça. Et c'est intéressant ce que tu dis sur le Barça, c'est parce qu'aujourd'hui, le Barça a l'image du beau jeu, voilà, le tiki-taka. Mais le Barça, jusqu'à il y a très peu, si on regarde toute l'histoire du foot, n'avait pas de style de jeu. Et Herrera est là-bas, au Barça, il gagne d'ailleurs avec le Barça en Espagne, mais il n'y avait pas encore cette idée de jeu. Et c'est pour ça qu'il a pu exister au Barça. Aujourd'hui, tu peux pas imaginer qu'un coach de ce style-là ira entraîner le Barça. C'est impossible.
Et toi, en tant que journaliste et même amateur de foot, t'as forcément dû regarder des matchs de l'Inter d'Herrera des années 60. Est-ce que t'as pris du plaisir en les regardant?
Ça dépend des matchs en fait, parce qu'en championnat c'était pas forcément un football aussi limité qui interdisait l'offensive autant. Par contre, dans les grands matchs, tu retrouves le même schéma qu'avec Mourinho, où on va laisser le ballon à l'adversaire et profiter des espaces en contre-attaque. Tu peux te régaler parce qu'il y a des belles contre-attaques, comme j'ai dit. Il y a Fakhetti qui est un latéral gauche à l'époque exceptionnel, parce que c'est une qualité technique, c'est une qualité de frappe, c'est un espèce de robot au poste de latéral gauche. C'est un peu le Cristiano Ronaldo du latéral gauche, parce qu'il a toutes les qualités possibles dans un joueur de foot. Mais c'est vrai que souvent tu te dis, c'est quand même un peu rébarbatif, parce qu'ils ont jamais le ballon, ils restent très bas. C'est bien quand ça gagne, mais dès que ça gagne pas, tu te dis pourquoi en fait.
Ouais, et tu l'as comparé à José Mourinho, qui est un peu son héritier. Est-ce que c'est vraiment la même identité de jeu? Est-ce que vraiment Mourinho se joue défensif, Catenaccio? Est-ce qu'on peut dire même aujourd'hui que des équipes jouent le Catenaccio?
Je pense que c'est un peu différent, parce qu'il y a des choses qui ont changé. On défend plus en individuel, il n'y a plus de libéraux comme avant. Mais par contre, Mourinho a cette idée de se replier très bas devant son but dans les gros matchs. Et si tu regardes souvent, en fait, ses ailiers dans les gros matchs finissent par défendre sur le côté, et donc c'est limite une défense à 6, parce que t'as ta défense à 4 et deux ailiers qui descendent très bas face au latéraux adverse. Donc il y a vraiment les idées au cœur de leur philosophie sont similaires. C'est que l'adversaire t'es plus en danger quand t'as le ballon en fait dans les gros matchs, et c'est pour ça qu'il le laisse à l'adversaire. Et ça, c'est l'idée principale qui réunit ces deux entraîneurs.
Et la philosophie développée par Herrera, donc ce jeu défensif, ça a vraiment imprégné l'Italie. Au point qu'on en a à dire maintenant, les Italiens jouent défensif. C'est vraiment
alors que c'est plus
cliché.
Le cas depuis quelques temps. Ouais. C'est vrai que c'est à l'époque, et c'est ce que regrette Sacchi plus tard quand il prend le Milan, c'est que l'Italie, et lui il explique par l'histoire, l'Italie a toujours eu une culture de défense. C'est-à-dire que, il le dit Sacchi, lui, par rapport à Herrera, il dit voilà, Herrera c'était ce jeu-là, et l'Italie, quand tu regardes son histoire de la guerre, c'est toujours fait envahir. Et elle n'a jamais répliqué en allant attaquer un autre pays. C'est toujours une équipe ou un pays d'ailleurs, qui recule sur ses bases, qui se laisse envahir pour ensuite survivre. Et c'était la même chose avec Herrera. Et il a peut-être correspond à l'histoire de l'Italie.
Est-ce qu'il n'a pas aussi un peu imprégné la culture française aussi?
Oui, bah c'est sa participation à la création de la DTN qui fait que l'histoire française a été changée. Alors il y a aussi Georges Boulogne qui crée avec lui la DTN, mais c'est vrai que l'idée au départ de la DTN, c'est de créer des athlètes, pas forcément des techniciens, des athlètes qui vont être capables justement de pratiquer ce jeu physique défensif. Et ça a suivi la France pendant très longtemps. Je pense que ça change maintenant depuis quelques années quand tu vois les profils qui sortent. Mais c'est vrai que dans les années 50-60, quand la DTN commence, on est sur un football complètement différent de ce qui existe aujourd'hui, et malgré tout la France a réussi à sortir des talents à l'époque, alors avec les Fernandez, les Patini, mais c'est toujours venu finalement des populations qui venaient d'autres pays au départ. C'est les deuxième, troisième génération d'immigrés, c'était pas les profils qui étaient formés toujours en France.
Et du coup, est-ce que Herrera est vraiment l'antéchrist du football?
L'antéchrist, ça dépend de la vision qu'on a du foot. Je pense que si tu veux un Christ, il faut toujours qu'il y en ait un antéchrist. Si le diable n'existait pas, est-ce qu'on serait autant attaché à Dieu? Tu vois, c'est dans les idées comme ça religieuses, il y a toujours un espèce d'ennemi, il y a un conflit. Et lui a servi à ça. C'est pour ça qu'on n'aurait peut-être pas pu faire les entraîneurs révolutionnaires s'il n'y avait pas eu ce contre-courant à un moment Herrera, parce que sinon le football aurait eu une évolution linéaire. Et lui est venu casser un peu l'histoire après Sébès, parce que Sébès, tu dis le football va partir dans ce courant-là, et lui il vient et te dit non, on peut gagner comme ça, on n'est pas forcément obligé de développer beaucoup de jeux. Mais je pense que si tu te mets dans un point de vue historien, il est important. Si tu mets d'un point de vue esthétique et subjectif, tu peux refuser sa place dans l'histoire.
Et justement, il y a toujours ce débat sur l'esthétisme. Est-ce qu'il faut gagner beau ou juste gagner? Quel est ton point de vue là-dessus, toi en tant qu'amateur de foot?
Je pense que les spectateurs, même si parfois il dira qu'on peut gagner comme on veut, c'est toujours plus intéressant quand devant un match de foot, tu t'endors pas sur le canapé. Après il y a différentes manières de bien jouer au football, c'est pas forcément avoir le ballon, mais c'est sûr que quand tu refuses de l'avoir, vraiment quand tu refuses de l'avoir parce que tu te sens en danger avec, c'est un peu le contraire de du fait d'être un amateur du foot, d'être un footballeur. Quand t'es petit, tu veux juste avoir le ballon, tu vas pas te reculer, tu vois. Et je pense que les premiers instincts de footballeur quand t'es jeune sont les bons, dans le sens où tu penses très peu au score. Le score est une conséquence de ta manière de jouer, et c'est plus ça que j'imagine comme une philosophie bonne pour le football en général. S'il n'y avait que des entraîneurs comme Herrera, je pense qu'il n'y aurait pas eu autant de succès pour le foot.
Et maintenant, on va changer carrément d'époque. On va venir aujourd'hui avec Guardiola. Et ce que je trouve intéressant avec Guardiola, en fait, c'est que c'est un peu l'héritier. C'est un peu l'héritier de Cruyff. C'est un peu qui est aussi l'héritier de Mitchell. C'est un peu le football total, peut-être pas parfait, mais... Mais voilà, est-ce que déjà, pour les gens qui ne connaîtraient pas Guardiola, est-ce que tu peux nous présenter cet entraîneur, ancien joueur aussi, ouais.
Ah, tu l'as dit, tu as parlé du fait que c'est un héritier. Il l'a dit, lui, ses idées, il ne les a pas inventées, il les a volées à tous les gens qu'il a croisés dans sa carrière. Et il a croisé des gens très importants parce qu'il a été coaché par Cruyff et lancé par Cruyff dans le monde professionnel. Et Cruyff lui-même a connu Mitchell à l'Ajax et Kovacs, qui est aussi important, qui est devenu sélectionneur de la France ensuite. Mais c'est toute cette lignée en fait, du football hollandais de l'époque, des années 60-70, qui a changé le football catalan ensuite. Et Guardiola, il est héritier de tout ça, mais il a aussi appris de l'Amérique du Sud, il a appris des Mexicains, il a appris des Argentins, c'est un grand fan de Bielsa, il est un grand fan de La Volpe, qui est un entraîneur qui maintenant coach au Mexique, mais qui est un Argentin et qui a eu des idées révolutionnaires sur le fait de relancer le ballon proprement, comme le font toujours les équipes de Guardiola. Donc c'est un espèce de mix, de melting pot de tous les entraîneurs qui à un moment ont voulu développer du jeu. Et lui, c'est le résultat de tout ça, avec des plus meilleurs joueurs que ses mentors ont eu, peut-être.
Et ce qu'on apprend sur lui en lisant le livre, c'est que, comme l'était Cruyff aussi, lui et Cruyff, sont vraiment des dogmatiques. Ils ont vraiment une idée, une façon de penser, ils s'en écartent pas. Ouais.
Pour nous, je pense que de l'extérieur, c'est des dogmatiques, mais eux, t'expliques, et surtout Guardiola, t'explique que lui, il le fait pas par esthétique, pour lui, c'est la meilleure façon d'arriver au résultat, c'est de jouer comme ça. Donc c'est un espèce de dogme, mais que eux considèrent comme validé, en fait, comme sûr, comme certain. C'est pour eux. On gagne mieux comme ça, on gagne plus comme ça qu'autrement. Et d'ailleurs, c'est ce que dit Guardiola à chaque fois quand on lui dit « Mais est-ce que vous voulez pas changer votre style de jeu ?» L'an dernier, il avait beaucoup ça comme question en conférence de presse. Il disait « Mais regardez mon palmarès, j'ai eu... » Et c'est peut-être les fois où il se montre arrogant, c'est « J'ai gagné ça, 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 voilà. » Et on lui dit « Oui, mais t'avais Messi, t'avais machin. » Et finalement, il prouve cette année qu'avec 2-3 joueurs en plus, bah, les idées de jeu qu'il a développées en Allemagne, en Espagne, avec quelques modifications, ajustements, à chaque fois, on l'explique dans le chapitre sur Guardiola, mais vont gagner parce que c'est tellement maîtrisé et peut-être plus structuré que le football hollandais de l'époque qui était très libre, qui était très flamboyant, expansif. Aujourd'hui, c'est un peu plus structuré, mais il a gardé les idées clés vraiment.
Et tu peux nous expliquer en quoi consiste le dogme Guardiola, sa tactique?
Le dogme, c'est déjà d'avoir le ballon. Il a expliqué s'il pouvait avoir 100% de possession, il voudrait l'avoir, c'est quand même particulier. Et surtout tout le fait de garder le ballon au sol et de relancer ligne par ligne. C'est-à-dire que beaucoup d'équipes vont sauter, vont passer au-dessus du milieu parce qu'il ne faut pas y arriver. Alors, United avec Mourinho, c'est un spécialiste. Quand il est en difficulté, il balance sur Fellaini et balance sur Lukaku. Et à la retombée, on est là. Guardiola, c'est tout l'inverse. C'est-à-dire que le ballon doit rester au sol et on doit trouver ses meilleurs joueurs dans les positions les plus idéales possibles. On ne les met pas en difficulté, on les met vraiment dans les positions les plus optimales. Et il explique, moi je ne peux pas apprendre à mes joueurs à dribbler, par contre je peux les mettre en situation de 1 contre 1. Et tout ça, c'est ce qu'il appelle le jeu de position, et ce qui en Espagne est devenu très populaire, c'est vraiment, il faut toujours qu'il y ait la même structure sur le terrain avec le ballon pour faire la différence. Jusque là on disait, oui, quand tu défends, il faut être vraiment bien placé. Lui, quand on attaque, il faut vraiment être bien placé pour ouvrir les espaces aux meilleurs joueurs de l'équipe. À Barcelone, c'était Messi. Au Bayern, c'était Robben et Ribéry. Et aujourd'hui, à City, c'est un peu plus mélangé. De Bruyne, Silva, les ailiers. Mais c'est toujours ça. C'est ce jeu très, très structuré pour développer du beau jeu. Alors que justement, on pensait liberté, mouvement, etc.
Il y a une critique qui revient souvent avec Guardiola. C'est quand il arrive au Barça, quand il reprend l'équipe première, une critique que j'ai souvent entendue et qu'on a même entendue après quand il a repris le Bayern, c'est qu'en fait, il bénéficiait du travail fait par les anciens coachs.
C'est ça, par l'école barcelonaise.
C'est ça. Et en fait, on oublie à quel point lui, en fait, il a... Peut-être au Barça, il y avait déjà une école de jeu. Mmh. Il a vraiment poussé à son paroxysme.
C'est ça, ouais. Mmh. Et la transformation au Bayern a été incroyable parce que, alors juste avant, c'était Henkes qui d'ailleurs est de retour. C'était un football différent. Et les Allemands n'avaient pas cette culture. Il a souvent été critiqué au début parce qu'il développait, limite, il avait trop le ballon pour eux. Ça n'allait pas assez vite au but. C'est un championnat qui est vraiment porté sur la contre-attaque. Et lui, il a changé tout ça. Et aujourd'hui, le Bayern regrette un peu de l'avoir laissé partir. Ou enfin, en tout cas, de l'avoir pas retenu assez fort pour qu'il veuille rester. Mais. C'est vrai qu'au début, on pouvait se demander avec Barcelone, parce qu'il y avait quand même tous les joueurs qui correspondaient à ses idées. Et aujourd'hui, quand tu regardes à City, il est arrivé dans un club qui était en difficulté quand il les a récupérés, avec un mélange de joueurs qui vient un peu partout. Donc il n'y a plus du tout les idées en commun, il n'y a plus de noyau culturel. Et il a réussi à retrouver un style de jeu, pas forcément au même niveau que le Barça, mais similaire. Et c'est là où je pense que c'est limite l'expérience qui prouve le plus sa qualité, c'est celle à City aujourd'hui.
Et je pense que l'argument qu'on peut rétorquer à ces critiques-là, c'est que quand il entraîne le Barça B, il gagne le titre.
Ouais.
Alors qu'il n'a pas forcément des foudres de guerre sur le terrain. Ouais.
Et c'est ce qu'on voulait explorer sur Guardiola, parce que beaucoup de choses ont été écrites sur lui. Donc on se demandait comment faire du nouveau. Et on a regardé pas mal de matchs du Barça B cette saison-là, de Guardiola. Et c'était les mêmes idées qui étaient développées avec des joueurs d'un autre niveau, complètement différents, complètement plus bas. Mais il a lancé aussi des joueurs qui étaient dans ces idées-là. Busquets, c'est lui qui le lance. Pedro, c'est lui qui le lance. Voilà, c'est lui qui récupère Piqué de Manchester au Barça.
Qui fait venir Daniel Alves aussi, ouais.
Exactement. Donc, il a aussi participé à la construction de ses équipes. Il n'a pas juste hérité de plein de talents qui étaient déjà prêts à jouer. Il leur a réappris comment jouer. Et à chaque fois, ça finit par marcher.
Et tu as parlé d'une des influences de Pep Guardiola, qui est un coach que j'aime beaucoup, qui est Marcelo Bielsa. Est-ce que tu peux nous dire en quoi il a influencé Guardiola ?
Je pense qu'il a influencé Guardiola dans le fait de théoriser beaucoup de choses. Parce que Bielsa, au-delà d'être un entraîneur, est surtout un... Il voit le football d'une manière universitaire. C'est-à-dire qu'il a, quand tu regardes, il fait d'ailleurs beaucoup de conférences. Quand tu regardes ses conférences, il a pensé à tout. Il a tout conçu, repensé. Et il a eu une discussion avec Guardiola, qui est juste avant qu'il commence sa carrière avec le Barça B d'entraîneur professionnel, où il va en Argentine. Il discute avec Bielsa pendant 12-13 heures, une nuit. Et en fait, il en ressort bouleversé parce que Bielsa a tout connu et sait, enfin, juge beaucoup de choses parce qu'il a tout étudié. Et Guardiola, c'est aussi ce côté, je pense, de travailleur qui l'a inspiré. Et le fait que Bielsa, il partage des idées, parce que Bielsa, c'est aussi une équipe, quelle que soit la qualité des joueurs, on l'a vu avec Lille, alors à tort ou à raison, mais il cherche à avoir le ballon, à relancer court, à travailler au sol. Et tout ça, on le retrouve dans les équipes de Guardiola, mais il a eu des meilleurs joueurs que Bielsa n'a jamais eu.
Est-ce que Bielsa, c'est vraiment le meilleur coach du monde, comme dit Guardiola ?
Je pense que quand tu écoutes ceux qui l'ont connu, c'est peut-être le plus marquant pour eux. Mais le meilleur, je pense pas, parce que le meilleur, ça implique le fait de prouver sur le long terme. Et Bielsa a eu des expériences où d'un coup, il a transformé des équipes, mais sur la longévité, il n'a pas eu, et sur la constance, il n'a pas eu. Si on juge ça comme un espèce de, avec des critères objectifs, c'est pas le meilleur. Mais c'est le plus impressionnant et peut-être le plus influent pour cette nouvelle génération de coachs, surtout les Sud-Américains et les Latins.
Donc gagner des titres, c'est quand même important pour valider un peu...
Il faut, ouais. c'est un peu le problème de la Hongrie, c'est qu'on l'a dit tout à l'heure, ils ont brillé, ils n'ont pas gagné, et parfois leurs idées ont été un peu dévaluées à cause de ça. Et les idées de Bielsa sont parfois un peu dévaluées à cause de ça. On oublie qu'aussi il a gagné en Argentine des titres, il a eu une finale d'Europa League avec Bilbao, mais il faut à un moment convaincre que cette façon dont là de jouer ne sert pas juste à être beau, mais aussi à gagner.
Ce qu'a parfaitement réussi Guardiola avec son immense palmarès. Est-ce que tu penses que, là on a la chance de le voir entraîner tous les jours à City, est-ce que tu penses qu'il peut encore nous surprendre d'un point de vue tactique ?
Il commence à recycler en fait ses idées pour le moment, parce qu'on avait vu vraiment des différences entre le Barça et le Bayern dans la manière de jouer, et là le City est aujourd'hui un peu en mélange entre toutes les idées qu'il a eues jusque-là. Alors il y a eu un retour aux latéraux vraiment offensif à la Daniel Alves en début de saison parce qu'il y avait Benjamin Mendy. Là, il est blessé, donc il est revenu à un truc un peu plus proche de ce qu'il faisait au Bayern. Mais on ne sait jamais, parce qu'on ne s'attendait pas du tout à ce qu'au Bayern, il change complètement la manière d'occuper le terrain. Et il l'a fait parce qu'il avait d'autres joueurs, des profils différents. On pensait qu'il ne pouvait pas s'adapter et que c'est les joueurs qui allaient s'adapter à lui. Et en fait, c'est un peu l'inverse. Donc je pense que s'il avait un effectif mais complètement qu'il n'avait jamais auparavant, avec des profils complètement différents et alternatifs par rapport à ce qu'il a eu, oui, il pourrait se réinventer. Mais quand tu as des meilleurs joueurs du monde, en général, tu peux, t'as la liberté de faire un peu la même chose à chaque fois.
Et c'est une question un peu osée que je veux poser. Il est toujours en activité, donc c'est difficile de mettre un peu en perspective sa carrière. Mais est-ce qu'il peut être considéré comme le meilleur coach de l'histoire ?
Je pense que ouais, t'as raison, c'est un peu trop tôt, parce qu'on a toujours tendance à mieux juger a posteriori, quand on a toute l'image, toute l'histoire. Le meilleur coach, ça dépend de ton critère clé. Ça peut être Ferguson, le meilleur coach. On l'a pas mis dans le bouquin en tant que coach révolutionnaire. Il est cité, mais ça peut être lui le meilleur coach parce qu'il a duré 20 ans, il a traversé plusieurs époques, et il a toujours gagné. Et avec ses joueurs, il a réussi à les convaincre à chaque fois. Ça peut être Wenger, ton meilleur coach, si tu veux, même s'il a pas gagné autant de titres, il a réussi à transformer un club sur la durée. Donc, ça dépend quel est ton critère clé. Je pense que c'est très difficile, et c'est comme pour le dire, un meilleur joueur du monde, c'est très difficile d'en choisir un. Il y a toujours une liste, et c'est pour ça qu'on en a choisi 7 pour cela. C'est qu'on on devait un moment fixer un cadre pour les choisir, et il y a forcément certains coachs qui auraient mérité d'être là.
Il y a un truc qui revient avec tous les coachs qu'on a cités, que ce soit CBS, Herrera, Cruyff, Mitchell ou même Guardiola, même d'autres coachs qui sont dans le livre, c'est qu'ils ont révolutionné le foot à leur manière, mais pour le faire, ils ont eu des joueurs d'exception. Est-ce qu'il faut vraiment avoir des joueurs d'exception pour développer une nouvelle tactique ?
Je pense que tu peux développer de nouvelles choses avec des joueurs d'un niveau moyen, mais il n'y aura pas d'influence sur les autres entraîneurs si tu n'as pas des joueurs de qualité pour prouver que ça marche. Aujourd'hui, tu vois même à petit niveau des entraîneurs qui s'inspirent de ce qu'on fait, comme Mourinho, parce qu'en fait, il y a eu l'exposition médiatique, il y a eu le succès qui te dit, voilà, est-ce que j'ai envie de suivre ce modèle. C'est comme toi, quand t'es petit, tu prends toujours en exemple les gens qui réussissent. tu prends pas le mec qui a réussi un geste technique en D6 et qui est pas connu, tu vois, ou que t'as vu sur un terrain le dimanche. Donc il faut un peu cette espèce de matraquage médiatique, cette propagande qui est parfois involontaire, mais te dire voilà, lui il a gagné comme ça, il développe un certain charisme, il y a une aura. Et je pense que c'est ça aussi qu'ont ces entraîneurs, c'est qu'ils arrivent à convaincre et à transmettre leur message d'une manière extrêmement efficace à leurs joueurs, à tel point que quand tu écoutes certains joueurs qui ont eu Guardiola ou Mourinho d'ailleurs, qui est pas dans le bouquin, enfin qui est cité mais qui est pas révolutionnaire, ils recrachent ce qu'on leur a dit. Et à partir du moment où tu arrives à faire en sorte que des adultes recrachent ce que t'as dit, je pense que ça prouve que ton message est très efficace.
Et est-ce que tu penses qu'il est possible qu'il y ait encore des évolutions tactiques? On n'est pas à l'abri d'un nouveau système, d'une nouvelle manière de jouer?
Ah, c'est une question qu'on s'est pas mal posée avec les deux autres auteurs, parce qu'on se dit que dans 50 ans, ce sera quoi le bouquin si on est encore là et qu'on a envie d'en écrire un deuxième. Et je pense quand on est dans le présent, on a toujours du mal à imaginer l'innovation.
On a l'impression qu'on a déjà tout vu, en fait.
Je pense que c'est pareil dans tous les domaines de la vie. Aujourd'hui, tu dis en termes de technologie, bon, si t'es pas dans le milieu, tu te dis bon, qu'est-ce qu'on peut inventer maintenant? J'ai mon téléphone, je peux tout faire là-dessus. Et ça se trouve, dans 50 ans, on aura l'air ridicule, on sera complètement démodé, toi et moi, et nos petits-enfants nous se moqueront de nous. Mais le foot, c'est encore plus difficile parce que il y a tellement de variables que concevoir une innovation maintenant, je pense que ça dépendra des profils des joueurs qu'on aura. Tu sais pas, ça se trouve, le football augmenté, quand on autorisera les mecs à se doper, mais à utiliser la technologie, bah, par exemple, ça peut changer le foot. Si les mecs ne sont plus fatigués, tu peux presser pendant tout le match et ça tombera complètement fou. Mais aujourd'hui, là, quand ta petite personne là, qui a vécu 25 ans et qui connaît pas, qui peut pas deviner ce qui va se passer, c'est impossible de savoir. Il y aura forcément des innovations, mais c'est impossible de les imaginer maintenant.
Et de tous les coachs que vous avez traités dans ce livre, donc je vais les citer: Mitchell, Sebes, Guardiola, Lobanovski, Cruyff, Sacchi et Herrera. Quel est pour toi le coach qui t'a le plus marqué?
Je pense que c'est peut-être le fait que je suis jeune, mais c'est Guardiola aujourd'hui qui m'a le plus marqué. Après, si tu retournes dans l'histoire, un coach comme Sacchi, à l'époque, sur une période très courte, a eu énormément d'influence en Italie parce qu'il a changé la culture du foot italien. Et après, Sebes, quand tu regardes son histoire, c'est assez dingue parce que c'est un mec en Hongrie qui change le foot dans le monde entier à travers un match. Et aujourd'hui, c'est plus possible parce qu'il y a tellement de matchs diffusés qu'un match n'aura plus le tel impact. Mais je dirais que c'est surtout l'école de l'Ajax. Donc tu peux englober Mitchell et Cruyff dedans. Parce que c'est cette capacité à conserver des idées dans le temps à travers en fait le père, le fils et le fils du fils qui est Gordal, qui est le fils de Cruyff.
Ça fait 40 ans maintenant que c'est ça.
Ouais. Bah depuis la première Ligue des Champions de l'Ajax, c'est 70 ou 71. Et aujourd'hui, quand tu regardes Guardiola fonctionner, c'est toujours les mêmes idées. Donc c'est cette école-là que, plus qu'un personnage, c'est l'école hollandaise que je retiendrai de tout ça.
Et dans le livre, pour chaque entraîneur, vous mettez un match à visionner absolument, ouais, pour qu'il reprenne bien l'idée de jeu de ces entraîneurs. Si tu devais en citer qu'un, ce serait lequel? Le match à regarder.
Je pense qu'on en a un peu parlé. Après, c'est difficile parce que les images ne sont pas toujours de bonne qualité. Le Angleterre-Hongrie.
Ouais. Il est vraiment aussi marquant?
Il est marquant parce que tu as vraiment l'impression que l'Angleterre est complètement perdue et n'a jamais vu ça. Ils ne se sont pas préparés comme s'ils devaient aller affronter une équipe aussi forte. Et si tu devais choisir un autre match, juste un, parce que c'est un des entraîneurs sur lequel j'ai travaillé, c'est Sacchi. C'est la finale de Ligue des Champions 89 contre le Steaua Bucarest de Agui à l'époque. Et c'est un match qui commence par 15 minutes de pressing tambour battant. À l'époque, je pense que c'est quasiment inédit, où pendant 15 minutes, le Bucarest ne sort pas de son camp. Et ça résume très bien le Milan de l'époque et le changement qui est arrivé à la fin des années 80. Quand tu vois un coach comme Gourcuff aujourd'hui, qui parle de Sacchi comme un dieu, c'est tout. C'est, voilà, on juge toujours en fait les entraîneurs révolutionnaires aux générations de coachs qui ont été marqués et qui citent ces mecs-là en modèle. Et je pense que Sacchi et ce match-là en font partie.
Et pour revenir à l'actualité contemporaine à maintenant, parmi toutes les équipes qui existent au monde, quelles sont les équipes que tu recommandes de voir
regarder
jouer?
Ouais. Pour prendre du plaisir ou pour voir des innovations? Ça dépend.
On va commencer par du plaisir. On va se faire un kiff.
Du plaisir, je dirais Naples. Ouais. Cette saison, et je pense que tous les gens qui ont regardé Naples une ou deux fois se sont dit,
confirme,
cette équipe,
ouais,
elle fait un truc. C'est, je sais pas ce que c'est. Et en fait, voilà, c'est différent du Barça de l'époque, mais c'est aussi beaucoup de passes courtes pour un moment avancer et casser une ligne. Mais c'est le Naples de Sarri qui, j'espère, cette année va gagner le titre pour justement, comme on l'a dit, prouver qu'on peut gagner comme ça. Alors City de Guardiola cette saison aussi, c'est un truc assez costaud.
Et deux équipes se sont rencontrées en Ligue des Champions
et c'était génial d'ailleurs, ouais. C'était un des meilleurs matchs de la saison. Voilà, ces deux équipes-là, c'est pour moi les référents cette saison.
Et de manière un peu plus tactique, quelles sont les équipes à avoir joué.
Et je dirais qu'il faudrait se pencher vers la Bundesliga parce qu'ils ont. C'est... Le modèle allemand fait que les entraîneurs parfois sortent très jeunes. Là, il y en a un qui a 30 ans, Nagelsmann à Hoffenheim, il y en a un qui a 32 ans à Schalke, Tedesco. Et il y a le Leipzig qui a toujours cette même idée, alors sur tous les clubs Red Bull d'ailleurs. Au départ, c'était un club qui était vraiment porté sur la contre-attaque et aujourd'hui, ils développent un peu plus de jeux dans un système un peu bizarre. C'est pas un 4-4-2, c'est un 4-2-2-2 avec beaucoup de monde à l'intérieur. C'est très particulier. Donc je dirais que Leipzig, cette saison, c'est le club. Si on veut voir des nouvelles choses, c'est un peu le club à regarder.
Et en France ?
En France cette année, alors il y a le PSG qui est intéressant parce que les nouvelles arrivées font que le style de jeu a complètement changé. Il y avait Nice la saison passée qui était pas mal. Après, c'est pas forcément nouveau, mais j'ai un peu de tendresse pour Ranieri qui gagne toujours avec les mêmes idées là, qui a remis en place un 4-4-2 comme à Leicester il y a quelques temps. C'est pas forcément le championnat des innovations, la Ligue 1 cette saison, mais en tout cas, il y a quand même un niveau de coach assez important et intéressant. Et c'est dommage que Bielsa soit parti parce qu'il a essayé aussi des choses nouvelles.
Mais. Il n'y a pas beaucoup de Français à part Herrera qui est franco-argentin. Comment ça se fait qu'on n'ait pas de coach qui ait autant influé sur le jeu ?
Je pense qu'il y en a qui avaient des idées. Par exemple, les Nantais, les Suedo, Denwex ont eu des idées vraiment marquées. Ils n'ont pas duré assez dans le temps pour rester dans la mémoire des Français. Il y a aussi ce choix en 98 à l'époque de l'équipe de la FFF qui ne prend pas Suedo pour succéder à Jacquet. Parce que c'est gagné avec Jacquet dans un style complètement différent. Donc, la France n'a jamais eu un style de jeu qu'elle a prôné comme une valeur à mettre au-dessus de tout. Là où d'autres pays ont. Alors, il y a eu, en Argentine, il y a ce duel entre le bilardisme et le ménotisme, où c'est le bilardisme, parce que c'est gagné quoi qu'il en soit, et le ménotisme, c'est gagné avec style, avec la manière.
Juste pour préciser pour les auditeurs, ce sont
deux anciens entraîneurs, c'est ça. Bilardo, champion du monde avec l'Argentine en 86, et Menotti, champion du monde avec l'Argentine en 78. Donc, ça là, c'est... il y a eu ces deux manières de gagner là. C'est un peu le Christ et l'Antéchrist, on en parlait tout à l'heure, et ça a créé en fait un duel philosophique en Argentine qu'on n'a pas forcément en France. Bon, on se pose la question parfois, mais après on se dit bon, on a fait finale d'Euro avec Deschamps, voilà, on a gagné avec Jacquet, là. Et quand on réussit en général l'équipe de France, peut-être à l'exception de 84, c'est pas forcément en étant l'équipe la plus belle et la plus réjouissante du tournoi. Peut-être parce qu'on a trop perdu en étant beau qu'aujourd'hui on se pose plus autant la question, ou alors elle est plus aussi importante qu'avant.
Et donc l'équipe de France va à la Coupe du Monde cet été en Russie. Justement, pour cette compétition, quelles sont les équipes à surveiller du point de vue du jeu ?
Le Brésil recommence vraiment à être bien. C'est pas le Brésil de Tele Santana des années 80 où c'était flamboyant, mais c'est quand même pas mal. Après, si tu regardes au niveau des sélections nationales, je pense que l'Espagne recommence là avec Lopetegui qui a eu cette génération de joueurs en jeunes sur les 21. Et l'Allemagne surtout de Joachim Löw, parce que lui c'est quand on parle des coachs influencés par Guardiola, et lui c'est intéressant parce qu'il est plus âgé que Guardiola, quand Guardiola est arrivé au Bayern, Löw a commencé à adopter ses idées parce que c'était plus simple, les joueurs travaillaient avec Guardiola en club, donc c'était plus simple de les retranscrire en sélection. Et quand tu regardes la philosophie allemande aujourd'hui, que ce soit la formation ou l'équipe première, c'est une équipe qui est absolument obsédée par le ballon, et on l'a vu contre l'équipe de France récemment en amical où l'équipe de France a bien joué, mais l'Allemagne a eu le ballon quasiment tout le temps, et surtout en deuxième mi-temps quand il a fallu faire la différence. Voilà, donc je dirais que l'Allemagne au niveau national, il y avait le Chili avant, ils seront pas là cette année, mais l'Allemagne est vraiment la plus intéressante sur ce plan-là.
Donc ce seront les équipes aussi à surveiller pour le titre ?
Oui, je pense aussi, oui. Après, il y a toujours une équipe un peu, pas moche, mais une équipe qui est un peu ennuyante qui va avancer. Tu vois, le Portugal en 2016, ils ont commencé à gagner sur leur match à l'Euro quand ils ont choisi de refuser d'avoir le ballon, c'était ça. Ils ont battu la Croatie qui était sympa à avoir joué. Donc il y a toujours une équipe qui va comme ça venir un peu en trouble fête, on dira voilà, vous jouez bien, c'est cool, mais ça se trouve ce sera la France qui sera comme ça, vous jouez bien, c'est cool, mais nous on va gagner en jouant comme ça. C'est la... bon, moi qui suis à moitié grec, c'est la Grèce de 2004. Même si je suis pas fan de l'idée générale, quand ça gagne t'es quand même transporté.
Au final, on revient toujours à cette finalité qui est le trophée, c'est ça ?
Oui, malgré tout, surtout à ce niveau-là professionnel. Alors, il y a d'autres questions quand tu es éducateur sur les jeunes, quand tu es à petit niveau, où tu te dis, bon, j'ai mes 15 mecs là, du dimanche matin qui sont bourrés de la veille, qu'est-ce qu'on peut faire ? Quand tu es sur les pros, tu as cette obligation de résultat, tu as ton job qui est en jeu, c'est ton métier, donc tu peux pas non plus, tu vois, c'est comme n'importe quel métier. Tu es un chanteur, tu vends pas d'album, tu n'es pas signé pour l'album suivant, donc c'est pareil pour les entraîneurs. Et il y a cette obligation de résultat. En fait, c'est pour ça que c'est intéressant de voir qui peut changer le jeu et révolutionner le jeu. C'est qui a assez de courage pour, au départ, créer quelque chose de nouveau qui va pas convaincre les anciens. Ils vont se dire mais pourquoi ? Et il faut prouver que ça marche. Et c'est vraiment des entraîneurs courageux qu'on a mis sur la couverture.
Et pour la suite de ta carrière, donc après avoir écrit comment regarder un match de foot, donc les entraîneurs révolutionnaires du football, c'est quoi la suite ?
C'est une bonne question. J'ai pas encore la réponse parce qu'on réfléchit toujours de toute façon comme un collectif avec les autres auteurs et en général avec les cahiers du foot. Donc il y a des projets qui sont en cours, qui vont être lancés. En termes de bouquins sur ce thème-là, pour l'instant, là, il y a une petite pause philosophique parce ouais. qu'on a enchaîné deux en deux ans comme ça et à la fin tu sors un peu vanné, mais on espère justement qu'il y aura d'autres innovations sur lesquelles on aura à écrire. C'est l'enjeu pour nous, c'est que le foot continue de se réinventer pour continuer d'être pertinent.
Donc on arrive à la fin de cette interview et c'est le retour depuis la dernière émission de la question pupute.
Oh.
Donc je vais te poser une petite question. Je pense qu'il y a moyen que tu aies la réponse.
Alors,
c'est une question Ballon d'Or. Alors quel Français a été le plus souvent sur le podium du Ballon d'Or ? 5 fois.
5 fois ?
Ouais.
Platini ?
C'est Platini. Bravo. Bonne réponse. Bravo Raphaël.
Merci.
Et du coup, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite ?
Une bonne saison de football.
Ouais.
Voilà, qu'on prenne du plaisir à regarder du foot et puis du plaisir aussi à écrire sur le foot, que ça reste. Je pense que quand ça devient un métier, le fait de suivre ta passion, ça peut parfois être un peu dur de concilier ton amour et le fait que c'est un métier, ton amour pour le jeu. Donc là, je me souhaitais juste ça.
Bah,
ce serait pas mal déjà.
C'est une très bonne chose.
Merci.
On veut des beaux matchs. Merci. Merci Raphaël d'avoir
Merci
été avec
toi.
Nous. Merci à Raphaël Cosmidis d'avoir accepté notre invitation. C'est donc le dernier épisode de l'année. Et attention, grosse news. Dès janvier, on démarre un nouveau truc pour vous remercier, vous, auditeurs et auditrices loyaux. Comme certains le savent peut-être déjà, on a l'habitude de faire deviner sur Twitter, Facebook et Instagram les invités avant parution de l'épisode. Vous êtes à chaque fois des dizaines à répondre et du coup, on a une récompense. À partir du prochain épisode, le ou la première à donner la bonne réponse aura le droit de soumettre une question au prochain invité. Jouez et répondez, on prendra contact avec vous, on vous indiquera le prochain invité et vous aurez la possibilité de nous soumettre la question de votre choix. Alors commencez à bûcher dès maintenant. Banquette est une émission d'Abdallah Swadri, produite par Nouvelles Écoutes, réalisée par Aurore Meyer-Mailleux, musique composée par Méhari, monté et mixé par Maxime Olivier à l'Arrière Boutique Studio. Comme d'hab, vous pouvez bien évidemment réagir à cet épisode sur nos réseaux. Pour cela, vous allez sur Twitter, Facebook et même Instagram. Et on apprécie vraiment de lire vos réactions. Si cet épisode vous a plu, c'est simple. Vous allez sur Apple Podcasts ou iTunes et vous mettez des étoiles. Et si je peux vous donner un conseil, c'est d'en mettre 5. Et que serait Banquette sans ses auditeurs ? Alors merci aux banquettistes pour tout le soutien que vous apportez. Cœur sur vous, comme dirait l'autre, vous êtes vraiment les meilleurs. On se retrouve donc dans 2 semaines avec un nouvel invité pour un nouvel épisode de Banquette.